Nadia et Jean-Michel, format A3.
Les directives anticipées, le mandat pour cause d'inaptitude, c'est le thème de la prochaine conférence donnée par Prosenectute à la résidence Les Roches à Orvin. C'est ce soir, 19h30.
S'il m'arrive un accident ou une maladie qui m'enlève ma capacité de discernement, qui payera les factures? Quels sont les soins que j'accepte ou que je refuse? C'est sur ce genre de questions que se concentre la conférence.
Et avec nous ce matin pour en parler, Camille Ribaud, assistante sociale au sein de Prosenectute, et Stéphane Chopard, président de Prosenectute et directeur de la résidence Les Roches à Orvin. Bonjour.
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 Perdre son discernement, ça peut survenir après quoi?
Ça peut survenir après un accident ou après une maladie.
Et quand on parle des directives anticipées et le mandat pour cause d'inaptitude, on parle de quoi exactement?
Alors, en fait, les directives anticipées, c'est la possibilité de manifester ma volonté quant aux actes médicaux que je souhaiterais recevoir ou bien justement que je ne souhaiterais pas recevoir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la pleine possession de ma capacité, donc je pourrais choisir qu'est-ce que je veux comme acte au moment où je n'aurai plus ma capacité de discernement et donc que je ne pourrai plus décider.
Alors, vous travaillez à Prosenectute, donc on a affaire à un public plutôt âgé. Quand on parle avec les personnes que vous rencontrez de ce genre de sujet, c'est un sujet qui est difficile à aborder. C'est quelque chose qui fait peur de se projeter dans un avenir pas très radieux.
Alors oui, en effet, ça fait un peu peur. Et puis c'est encore un sujet un petit peu tabou. Dans certaines familles, c'est pas facile d'aborder ces éléments-là. Mais c'est vrai que les personnes qu'on rencontre à Prosenectute ont déjà fait un bout de chemin, ont déjà fait leur réflexion. Et puis sont en général prêts, quand ils viennent vers nous, à mettre par écrit leur volonté.
Le but, c'est de se protéger aussi. Quelqu'un qui devient inapte serait trop vulnérable. Donc le but, c'est de bien se protéger avant qu'il y ait un accident ou une maladie.
Le droit de la protection de l'adulte a été entièrement revu en 2013. Et un des trois aspects principaux, c'était la protection des personnes qui sont incapables de discernement, avec la mise en place de mesures de curatelle ou de placement à fin d'assistance. Mais les deux autres aspects préliminaires, c'est celui de l'encouragement au droit à l'autodétermination, comme par les directives anticipées ou le mandat pour cause d'inaptitude, et le renforcement de la solidarité familiale. Une fois qu'on choisit de faire des directives anticipées, c'est important de désigner des mandants et puis de communiquer aux proches le fait qu'elles existent et où elles sont consignées.
C'est parce qu'il y a eu des abus auparavant?
Je ne sais pas l'historique de ce qui a mené à la révision du droit de la protection de l'adulte, mais certainement des abus peut-être, mais c'est surtout que la société évolue, la population devient de plus en plus âgée, avec de nouvelles mesures à prendre et à mettre en place.
Alors justement, les personnes âgées qui sont peut-être les premières concernées par ce genre de directives et de mandats, elles sont soulagées de savoir que ça existe et puis qu'on peut maintenant prendre des décisions.
Alors oui, tout à fait. Les personnes donc, qui remplissent leurs directives anticipées se sentent en général soulagées par cette démarche-là. Et puis, ben, voilà, elles ont la sécurité de se dire que leurs volontés seront respectées. Aussi, la charge de se dire que les proches n'auront pas forcément les décisions à prendre, que les décisions sont déjà prises et puis qu'ils auront en fait finalement la tâche de les faire appliquer.
Et puis c'est quoi la différence entre directive anticipée et mandat pour cause d'inaptitude? C'est des choses qui se recoupent ou alors c'est vraiment deux domaines qui sont indépendants l'un de l'autre?
Alors non, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc les directives anticipées, comme j'ai dit avant, vont vraiment servir à choisir aujourd'hui quel acte médical je voudrais au moment où je n'aurai plus ma capacité de discernement. Tandis que le mandat pour cause d'inaptitude est en fait la possibilité de nommer quelqu'un aujourd'hui qui s'occupera de mes affaires administratives plutôt, mais aussi de ma vie courante au moment où je perds ma capacité de discernement. Cela ne veut pas forcément dire que je serai dans un état de santé critique, mais que je n'aurai simplement plus la possibilité de les faire moi-même.
Jamais 203. Format A3.
Nous sommes de retour avec nos invités. Camille Ribaud, assistante sociale chez Prosenectute. Stéphane Chopard, président de Prosenectute, directeur de la résidence Les Roches à Orvin.
Et nous parlons aujourd'hui des directives anticipées et le mandat pour cause d'inaptitude.
Alors justement, vous donnez une conférence, Camille Ribaud, ce soir à 19h30 sur ce thème. C'est parce qu'il y a des lacunes à ce niveau-là que vous avez décidé ensemble, Procénectoute, de parler de ça.
Alors oui, c'est en premier temps pour faire connaître ces directives anticipées et le mandat pour cause d'inaptitude, pour rendre attentifs les gens, toute personne, pas seulement les personnes âgées, que ça vaut la peine de se poser ce genre de questions et puis de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut pour ces moments difficiles.
Parce qu'en général, les personnes qui veulent prendre des directives anticipées, elles ne sont même pas au courant comment ça se passe. Parfois, elles ne savent pas vraiment quel chemin il faut prendre pour avoir cette possibilité-là.
Alors non, elles ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Elles viennent justement souvent vers nous à Procénectoute pour avoir des réponses sur comment elles peuvent faire pour consigner leur volonté. Par contre, elles ont toujours déjà mené la réflexion et puis elles sont bien au clair en général sur ce qu'elles souhaitent ou surtout sur ce qu'elles ne souhaitent pas.
Là justement on parle des personnes âgées, mais vous dites il faut quand même des fois y penser avant. Est-ce que c'est souvent tard que les personnes prennent ces genres de décisions quand leur santé faiblit, ou est-ce qu'on pourrait même à 25 ans se poser la question?
On peut rédiger des directives anticipées à tout âge, on peut les réviser aussi à n'importe quel moment. C'est possible d'être accompagné dans ces démarches. Les directives anticipées restent une démarche assez simple au niveau de sa forme, parce qu'il y a des formulaires qui existent où on peut simplement cocher des cases datées et signées. La forme écrite suffit. Par contre, le mandat pour cause d'inaptitude, il est un peu plus complexe dans sa rédaction. Il doit être fait sous forme authentique ou sous forme holographe et puis comporter certains aspects un peu plus pratiques et juridiques pour lesquels il vaut bien être accompagné. Par rapport aux directives anticipées, c'est un thème qu'on aborde fréquemment lors d'une admission dans un établissement médico-social. Il y a des résidents qui entrent chez nous et qui ont déjà rédigé leurs directives auxquelles ils y avaient pensé. D'autres l'ont pas. Souvent, les familles découvrent cet aspect-là du droit de la protection de l'adulte. Et de là est née notre envie de faire mieux connaître ces deux aspects dans le cadre de la conférence qui aura lieu ce soir.
Donc ça veut dire que pour un mandat d'inaptitude, par exemple, il faudrait que ça soit un document qui est authentifié par un notaire, ou alors que les directives anticipées, chacun peut écrire quelque part ce qu'il aimerait, ce qu'il n'aimerait pas.
Correct, on peut utiliser des formulaires préexistants pour le mandat pour cause d'inaptitude. Soit c'est le notaire qui l'authentifie, soit il doit être écrit à la main, daté, signé. Et puis ce qui est important, c'est toujours de mentionner qu'ils existent. Si on les rédige, puis on les met dans le fond de tiroir, elles ne vont pas pouvoir être utilisées ou servir au moment où c'est nécessaire. D'où l'importance de communiquer avec un proche, avec un médecin. Il existe aussi des plateformes en ligne où on peut déposer une version scannée de ces documents et pour lesquels on peut avoir une petite carte qu'on glisse dans son porte-monnaie, par exemple, et puis qui permet de faire connaître le fait que ces documents existent.
On disait tout à l'heure que les gens tardent peut-être parfois à prendre ces dispositions, mais ça peut créer aussi des questions au sein de la famille, non?
C'est possible que un parent fasse part de ses souhaits à un enfant, puis à un autre, et au moment où il y a une situation de perte de discernement qui se présente, l'interprétation des volontés du parent peut être différente d'un enfant à un autre, d'où l'importance de les consigner par écrit et de faire ces démarches, je dirais le plus tôt possible, parce qu'on est à l'abri de rien, malheureusement. Et une fois qu'on a perdu sa capacité de discernement, c'est trop tard pour rédiger ce type de document.
Alors là, on est sérieux, on parle de directives concernant sa santé, éventuellement la façon dont on va quitter ce monde, mais peut-être de façon un peu plus légère. Vous qui envoyez beaucoup de ces documents, est-ce qu'il y a parfois des choses qui vous surprennent dans les directives qui sont données, des gens qui ont des volontés, je ne sais pas, un peu extravagantes? Est-ce que ça arrive aussi?
Alors ça peut arriver, surtout, oui, des gens qui se positionnent un peu de manière surprenante par rapport à leurs animaux de compagnie ou des choses de ce style-là. J'avais eu une fois aussi une dame qui avait comme volonté de que sa tombe soit fleurie tous les printemps avec une fleur particulière. Donc ça, c'était aussi un peu une surprise et puis quelque chose de plutôt un peu rigolo et sympa. Après, ben voilà, c'est toujours des volontés que les gens ont et puis qui sont suivies dans les mesures du possible, évidemment.